Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, ici au studio de Transistor, on parle de deux films français assez différents, Bernadette et Le Règne Animal, avec vos critiques, Chirine, Nathan et Thomas, dont c'est la première émission avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue donc pour ce nouvel épisode du Comptoir du Cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur Bernadette, donc le premier film de Léa Domenach, biopic d'1h32, plus ou moins inspiré de faits réels où tout n'est pas vrai, en tout cas pour reprendre le carton au début du film, consacré à Bernadette Chirac, donc à partir de l'élection de son époux à la présidence de la République en 1995. On va assister sur la première partie du film aux trois premières années du mandat de Jacques Chirac, dépeint ici par Michel Villermoz comme un imbécile sans aucune vision ou sens politique, entouré de conseillers détestables et qui humilie de façon volontaire ou non, et d'ailleurs le plus souvent par son indifférence ou son inattention, celle qui est montrée ici comme une épouse dévouée et attentionnée. Mais après la blessure de trop infligée à son honneur, Bernadette décide de reprendre en main son image avec l'aide de son directeur de cabinet, Bernard Niquet, campé par Denis Podalydès. Le film construit alors son héroïne en icône pop et vire vraiment à l'hagiographie. Bernadette devient littéralement la Lady Di française, passe à la télé, s'affiche en boîte, se fait relooker par Karl Lagerfeld, mais est également adulée sur les marchés, et puis elle va prédire l'échec de la dissolution de l'Assemblée nationale par son mari et la présence du Front National au second tour en 2002. Et à chaque fois, les conseillers de son mari et son mari lui-même vont lui rire au nez. Bref, c'est en effet très librement adapté de faits réels, il n'y a pas énormément de cinéma, mais les acteurs et les actrices s'amusent beaucoup, et c'est très plaisant de les regarder, ça ne prend vraiment pas la tête, mais enfin c'est sûr que c'est fun. À vous de me dire votre avis, on va commencer avec Thomas.
Alors merci de m'accueillir, mais je suis au regret de vous annoncer que je vais venir aux mauvaises nouvelles, car pour moi Bernadette est un film inquiétant.
Inquiétant, carrément,
car par moi, déjà, le premier aspect de ce film, ça commence par l'élection de Jacques Chirac, et l'entrée à l'Élysée s'apparente plutôt à l'entrée dans un palais royal. Déjà, moi, je trouve que les blagues sont extrêmement royalistes, au tout début. Enfin, on appréciera peut-être le petit trait d'humour par la scénariste Léa Domenach qui réalise et co-scénarise le petit trait d'humour de faire rentrer sa tortue Marie-Antoinette, baptisée Marie-Antoinette. D'ailleurs, Catherine Deneuve dit « J'ai toujours rêvé de faire rentrer une reine à l'Élysée ». Je pense que la République française a plutôt voulu en faire sortir une de son pays. Mais bon, ce n'est pas le seul problème, car je trouve que ce film-là a un problème, car il montre la politique juste comme un terrain juste de communication. C'est uniquement, on ne se préoccupe pas d'idées, genre Bernadette a vraiment un flair politique, mais seulement tout se joue sur le terrain de la communication. Les élections cantonales ne sont juste qu'un terrain pour asseoir et pour tester sa cote de popularité, pas forcément pour défendre des intérêts de la Corrèze qui apparemment tient vraiment à cœur de Bernadette Chirac. Bon voilà, on l'a compris, je ne suis pas forcément du côté de ce film, mais c'est vrai que c'est un des films qui offre un très beau rôle à Catherine Deneuve qui, ces dernières années, il faut le dire, c'était un peu en pêche.
Merci beaucoup Nathan.
Alors moi je serais peut-être pas aussi inquiet que Thomas, mais je suis quand même plutôt d'accord avec toi. En fait, je trouve que globalement le film aurait gagné à être plus, enfin aller au bout du geste. En fait, j'ai l'impression que c'est un film qui va pas au bout du geste, que c'est pas assez barré, décalé, pas assez pop, ouais, peut-être. Justement. Je trouve que ça, c'est, enfin, l'efficacité comique de certaines scènes est surtout portée par le casting, parce que je trouve que les acteurs sont quand même tous, à commencer par Catherine Deneuve, très bons. Mais même tous les acteurs de la comédie française qu'il y a, il y en a quand même plusieurs et tout. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien, mais que à part ça, dans l'écriture, le film n'allait pas forcément au bout de son idée et de ce qui aurait pu en faire un film plus réussi, quoi. Voilà, tout simplement.
Merci. Chérine ?
Je suis désolée que vous ayez tous les deux été déçus, mais pas moi. Moi, j'ai ri, j'ai bien ri, le public a bien ri. Alors, il était essentiellement constitué de personnes âgées, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un univers assez déjanté qui nous était présenté. Et ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, sur le palais royal, c'est vrai qu'il y a quelque chose des blagues un peu monarchistes, mais je pense que ça fait partie de l'aspect conte qui va avec les chansons. C'est une sorte de palais royal un peu féerique où il y a des tortues dans le jardin qui peuvent se faire pisser dessus. Enfin, je pense qu'il faut plus... Enfin, moi, je l'ai plus abordé comme quelque chose de très léger, quelque chose de pas foncièrement politique, même si ça paraît un peu aberrant de dire ça, puisque c'est un film fait sur la femme de Chirac, mais c'est ça qui m'a permis de l'apprécier vraiment. Enfin, après, je pense qu'on peut quand même faire des critiques. Par exemple, le personnage de Villermoz, j'ai trouvé qu'il était trop simple, il était trop... Il n'avait pas du tout le côté gouailleur du vrai Chirac, et il était beaucoup trop antipathique pour être drôle. Et ça, c'est quelque chose qui a pêché, mais tes critiques sur le fait de montrer la politique sous l'angle uniquement de la communication... Je peux les comprendre, mais en même temps, je me dis que c'est une façon d'aborder le film qui est très sérieuse pour un film qui n'est pas tant que ça.
Et à vrai dire, je suis d'accord, si je peux rebondir sur ça, c'est vrai que l'aspect de communication et l'aspect assez léger, moi, je l'ai beaucoup aimé dans ce que je trouve la deuxième partie, quand elle décide de ne plus se faire marcher dessus. Je trouve que c'est très bien amené. D'ailleurs, c'est la partie ma préférée. Vraiment, j'ai ri, enfin, je vous avoue, j'ai ri avec la salle aussi. J'ai ri avec la salle, surtout le moment du sondage uniquement dans l'Elysée avec elle est acariâtre, elle est insupportable, elle est froide, elle est austère. D'ailleurs, Denis Podalydès, il faut le reconnaître, joue très bien le personnage de Niquet, qui a une super trajectoire dans ce scénario. Mais ce qui m'a dérouté, et pourquoi est-ce que j'ai vu aussi comme un problème politique, c'est qu'on voit déjà toute la classe politique de droite, du RPR, ensuite UMP et maintenant aujourd'hui les Républicains, genre Nicolas Sarkozy en particulier. D'ailleurs, ça a beaucoup fait rire la salle, cette reconstitution de Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, enfin j'en passe, des têtes qui sont encore là présentes aujourd'hui. Et j'avais l'impression plutôt d'avoir un portrait de famille du RPRR, assez nostalgique tout de même. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était empreint d'une grande nostalgie. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est ce retournement de situation à la fin quand même, où finalement, Bernadette s'affranchit de son mari. Elle fait tout pour son mari, ni rien. À la fin, elle excuse tout à son mari. Elle dit, en fait, Jacques est un incroyable mari. Elle dit ça à sa fille. Sa fille la remercie d'avoir été vieille France d'avoir voulu garder une famille unie et donc vraiment les valeurs de la famille. Et ce qui m'inquiète quand même, c'est surtout la fin où Bernadette Chirac soutient Nicolas Sarkozy parce qu'elle veut passer une retraite au calme, parce qu'elle sait que si Sarkozy sera élu avec le soutien de Chirac, ils pourront être graciés des problèmes d'emploi fictif de Jacques. Alors voilà.
C'est vrai que la phrase... Merci d'avoir été vieille France, qui est une des dernières répliques du film. Je l'avais noté parce que vraiment, je trouve que c'est assez symptomatique du film. C'est, enfin, exactement comme tu as dit, je trouve dans la tendresse qui est utilisée pour dépeindre Bernadette Chirac, il y a quand même aussi effectivement une grosse nostalgie qui s'en dégage et qui, je trouve, serait pas dérangeante si elle était plus décalée. Enfin, je trouve que c'est pas assez désamorcé par le second degré en fait. Et qu'on est toujours un peu sur ce fil-là. Et ouais, effectivement, cette fin-là, où limite on fait de Bernadette une espèce d'icône féministe ou quoi, enfin, je trouve ça hyper... Enfin, à la limite, c'est un traitement qui est possible, mais qui, là, je trouve... met presque sous le tapis, en fait, une espèce de réhabilitation, effectivement, de la droite française, cette vieille France-là, qu'on la remercie d'avoir représenté. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a un peu dérangé, effectivement. Ouais.
Bah, on peut voir dans ce film-là une sorte de réhabilitation de ce monde-là, en ce qu'il est un peu fantasmé, en ce qu'il est mis à l'écran. Mais je trouve que tout au long du film, ce que vous disiez sur le côté vieille France, on voit quand même qu'elle est prisonnière de ça. Et qu'il y a une sorte de complexité dans le personnage qui est un peu masquée par le côté léger du film. On voit qu'elle est plus éduquée, plus intelligente que son mari et que quand même il est capable de lui faire passer un mot sur lequel il y a écrit « Taisez-vous ». On voit qu'elle est drôle, qu'elle est capable de prévoir des événements que personne n'écoute. On voit quand même que le côté vieille France l'empêche d'être quelqu'un, de se réaliser. Et je pense que quand sa fille lui dit à la fin « Merci d'avoir été vieille France », on sent aussi la part d'abnégation de Bernadette et on peut imaginer qu'en entendant ça, elle n'est pas forcément très ravie, très heureuse. Enfin, moi, je pense que c'est plus nuancé que ça.
Oui, je suis d'accord. C'est cette scène où sa fille lui dit ça, et qui est d'ailleurs une assez jolie scène, hein, en soi, toute la discussion qu'elle a donc avec Claude, sa fille, est même assez touchante. Mais pour revenir juste sur ce que vous disiez, etc., sur la fin notamment, le fait qu'elle rejoigne Sarkozy pour se débarrasser des casseroles qu'elle a, je trouve. Enfin, moi, la fin m'a assez déçu, précisément parce qu'elle va suivre la réalité. Moi, je veux dire, après toute la construction que le film a fait pendant la première heure 20, on va dire, je m'attendais que le dernier quart d'heure, son avocat lui dit la seule solution possible, elle est politique, je m'attendais à ce que la réalisatrice, elle fasse de Bernadette la présidente. Je pensais qu'elle allait se présenter et gagner la présidentielle.
Devenir Eva Perron.
Exactement. mais voilà, enfin, je veux dire, le film, il passe vraiment tout le film se passe à construire Bernadette Chirac dans l'icône pop qu'elle a été ou non. Enfin, ça, j'en sais rien, j'existais pas. Mais et là, tout à coup, y a ce petit truc un peu minable de revenir rejoindre Sarkozy sur la scène du meeting à Villepinte. Et c'est presque un peu décevant, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que le film aille vraiment au bout, assume ce côté-là de, parce que je veux dire, c'est même pas trop, il y a pas vraiment de danger, à mon avis, de révisionnisme ou quoi que ce soit. C'est pas non plus Bernadette Chirac, c'est pas non plus une partie importante de l'histoire de France, et on aurait pu se permettre, à mon avis, vraiment ce détour-là vraiment fantaisiste qui irait au bout du compte, parce que c'en est un aussi, vraiment, comme tu disais, Chirine.
Je suis assez d'accord. Moi, c'est un peu ce que je voulais dire quand je disais que le film va pas au bout du geste, c'est qu'effectivement, quitte à aller dans le truc barré, etc., pour vraiment consommer ça complètement, on aurait pu effectivement basculer dans l'Uchronie ou quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un truc qui se retrouve en fait dans tout le film. Il y a plein de scènes de pastiches de genre, je sais pas, de journal de 20h, on revoit plein de scènes, même le moment qui pour le coup est très marrant, où Michel Vermoz réinterprète les cris de Chirac pendant la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est assez marrant, mais c'est toujours un pastiche sans réelle touche parodique, et je trouve que c'est là où le film bascule pas vraiment je sais pas, du bon côté, mais en tout cas là où il aurait pu encore plus marché, quoi, je trouve.
Des pastiches, mais le film reste quand même globalement très réaliste. Enfin, si dès les dès le début du film, on nous bassine avec une sorte de gospel à la française.
Ouais, c'est rigolo, ça.
En effet, en tout cas, on nous assure que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas seulement la vérité, que les scénaristes ont décidé de prendre beaucoup d'écarts avec la réalité. Cependant, on a un générique qui suit où on voit les cartes, cartes d'étudiants de Sciences Po de Jacques Chirac et Bernadette Chirac. Ensuite, il y a plein d'extraits de journaux de France 3, par exemple, notamment avec la Coupe du Monde, qui sont d'origine, qui sont d'origine aussi. Et de même, comme tu disais, il y a un manque d'ambition à la fin où on ne cherche pas à vraiment s'éloigner du personnage de Bernadette Chirac et en faire autre chose. Et finalement, moi, je trouve que ça en donne un mélange assez mou d'un film qui n'assume pas ses partis pris et qui... pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il était inquiétant? Parce que pour moi, ça reproduit juste le type de comédie française que l'on voit tout le temps, qui va passer le dimanche soir le dimanche soir à la télévision, qu'on aime financer parce qu'on sait que ça fonctionne et que ça va faire rire, parce que, enfin, au fond, Bernadette Chirac et Jacques Chirac, c'est juste une intrigue conjugale d'un couple qui va pas très bien, enfin, avec des dimensions où Jacques Chirac se comporte comme un connard avec elle. Mais globalement, franchement, je vois pas trop ce qui peut différencier, enfin, c'est peut-être je vais un peu loin, mais entre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Bernadette.
Oh non, quand même. Il y a un aspect vraiment féerique qui n'a pas du tout. Et puis même ce que tu disais, Louis, et ce que tu disais aussi, Thomas, sur le fait que la dernière scène vous a beaucoup déçu parce qu'elle fait que monter sur un podium. C'est pas uniquement. Moi, j'y ai pas vu uniquement une fin plan-plan et je sais pas, à la fin de son parcours politique dans le film. C'est aussi le moment où elle s'oppose publiquement à son mari d'une façon très tactique, très politicienne, en faisant croire qu'elle s'est soumise à la volonté de son mari, alors qu'en fait, elle en a fait qu'à sa tête. Et c'est un peu le moment du film où on se rend compte que c'est une vraie politicienne, et pas uniquement une dame qui essaye de communiquer, d'avoir des tailleurs de Karl Lagerfeld. D'ailleurs, son apparition est très marrante aussi. Oui. Et je pense que il y a une sorte de jeu un petit peu entre le côté très plan-plan et la réalisation personnelle de Bernadette, sous un angle qui se veut féministe. Donc après, on peut rester sur sa fin, c'est pas un film féministe au sens... Ou moi, par exemple, je peux l'être. Mais je pense qu'il faut être un peu plus... un peu plus, je sais pas, un peu plus tolérant. Voilà, en tout cas, un peu moins exigeant, c'est plus ça, avec, ouais. envers le film.
Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, c'est aussi le prendre pour ce qu'il y a. Effectivement, c'est une comédie, mais ce qui fait son travail de comédie. Hein. Il y a plein de scènes que je trouve vraiment, enfin, je trouve vraiment très drôles. Hein. Les scènes avec Salut les musclés, où il regarde Salut les musclés à la télé, c'est oui. super drôle. Ou mon ami Philippe des To Be Free, ou effectivement encore Podalides avec son petit truc télescopique là, qui lui fait le compte-rendu.
Ouais,
ça, c'est très drôle. Et effectivement, c'est la scène qu'il y a dans la bande-annonce. Et,
oui,
et moi, j'ai effectivement, en parlant de bande-annonce, j'étais content que les meilleures scènes du film ne soient pas que dans la bande-annonce et que...
Pas comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois.
Voilà, précisément, exactement. Non, non, mais oui, je suis vraiment d'accord. Le film a un côté féerique, exactement, qui est... et Catherine Deneuve apporte un charisme au film qu'il n'y a pas dans... Enfin, voilà, quand même. Enfin, oui, effectivement, ça reste Catherine Deneuve... Et elle apporte une plus-value non négligeable vraiment à cette comédie-là.
Ouais, c'est sûr que les vraiment encore une fois, moi je trouve que les acteurs sont le vrai point fort du film quoi. Même le duo Deneuve Poyaïdès marche hyper bien. Alors, ils sont vraiment très drôles séparément et ensemble. Cette scène-là effectivement est très marrante. Et moi je me suis fait un peu la réflexion inverse justement quand j'ai vu la scène avec son truc télescopique là et le sondage d'opinion auprès du personnel de l'Élysée, je me suis justement dit ah bah comme par hasard c'était la scène qui était dans la bande annonce parce que c'est la celle que j'ai trouvée la plus marrante effectivement parce que à part ça moi j'ai pas trouvé ça si drôle que ça aussi
il y a la scène en boîte de nuit enfin
oui.
là, je défends un peu le film
ouais.
Je trouvais qu'il était assez drôle avec, qui passait vraiment par du non verbal aussi enfin cette bouteille de champagne offerte par Sarkozy qu'elle rejette juste aussitôt
oui. oui puis c'était rigolo de les voir dans ce contexte là quoi effectivement je veux dire ces personnalités de Bernadette Chirac de Nicolas Sarkozy qui enfin je veux dire
qui porte une veste en jean fourrure dans une boîte de nuit où il devait faire 40 degrés je pense aussi
mais d'ailleurs cette scène en boîte de nuit m'a rappelé et puis il y a beaucoup de scènes qui m'ont rappelé en fait le film Potiche de François Ozon, je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous l'avez vu, qui est en gros où Catherine Deneuve était une femme au foyer, épouse d'un patron de PME en province, et elle finissait, enfin, ouais, en gros, bon, son mari se faisait enlever par les grévistes de son usine, et elle prenait sa place plus ou moins, et puis finalement elle s'émancipait complètement, ça se passe dans les années 70, et c'est une esthétique années 70, et elle finissait par gagner une élection législative à la fin, et donc c'est un film de 2010, je sais plus, et c'est très amusant, et mais il y a beaucoup de scènes qui, enfin, sur les marchés, là, il y a une scène en boîte, pareil, et tout, et donc il y avait, enfin bon, à titre personnel, il y avait aussi quelques scènes qui rappelaient quand même vraiment beaucoup ça, à se demander parfois un peu au copier-coller, qui confinaient un peu au copier-coller, oh, parfois. Mais bon, enfin pour revenir effectivement sur les acteurs, les actrices, c'est vraiment le duo de tête qui fait fonctionner le film, qui le tire, parce que c'est vrai que les seconds rôles sont pas non plus formidables. Tous les hommes de droite qui entourent Jacques Chirac globalement sont pas terribles. Hein. Moi, déjà ils ressemblent pas tous. Hein. Le Sarkozy est pas très bon, De Villepin non plus.
Ouais. Le Sarkozy est bon au niveau de la voix.
Bien. Oui, oui,
oui,
oui.
Mais
la voix
mais est très bien. C'est les mimiques, ça fait un peu Madame Chirac. Et c'est très vite fait. Enfin, on va dire
avec les épaules nerveuses,
les petits mouvements d'épaule. Mais je veux dire, enfin, ouais, c'était pas. Mais disons que moi, je vois pas le trop. Enfin, les hommes de droite tels qu'ils sont peints, j'y vois pas du tout une nostalgie. Hein.
Non, c'est justement ce que j'allais dire. Dominique de Villepin, il a l'air débile. Enfin, il n'y a pas de nostalgie pour moi. C'est un portrait, un peu une sorte de vignette qui en fait des personnages de BD, des espèces de pantins un peu bêtes. Pour moi, c'est pas. Je suis d'accord avec Louis.
Mais oui, mais dans l'aspect nostalgique que je voyais, c'est vrai, ils sont présentés comme des petits pantins, mais notamment en plus les réactions qu'il y avait dans la salle aussi, dès qu'il y en avait un qui apparaissait, ça y est, on riait un bon coup, mais j'avais l'impression qu'on faisait l'album de famille, comme si on était en train de se remémorer qui faisait partie de la famille, qui c'est qu'on voyait encore aujourd'hui.
Oui, mais c'est des gens qu'on voit plus quand même ensemble.
Enfin, Dominique de Villepin, enfin, il était sur en France Inter cette semaine pour parler de
Israël
Gaza, Nicolas Sarkozy, on en entend beaucoup parler, Xavier Bertrand
qui pour le coup est extrêmement ressemblant.
Ah oui,
moi j'ai cru que c'était lui.
Oui, moi aussi, je pensais que c'était lui d'ailleurs. Oui.
C'était lunaire.
Mais mais oui, mais enfin bon, je veux dire, moi j'ai vraiment pas vu du coup d'album. C'était pas du tout de côté réconfortant. Hein, je veux dire, c'est vraiment un biopic qui est hagiographique sur Bernadette, c'est son sujet, et tous les autres qui la méprisent, la réalisatrice les montre comme méprisables.
Après, ils sont tous méprisables, sauf sa fille, je trouve.
Oui,
qui
oui,
la
non,
méprise,
dire,
mais qui a quand même un. Enfin, moi, je l'ai vu comme une sorte d'alter ego de Bernadette, en ce qu'elle a énormément d'ambition, qu'elle la réalise plus, et en même temps qu'elle est très dépendante de Chirac. Alors, c'est parce que c'est son père, et à un moment, il y a une scène où elle dit mais c'est parce que c'est mon boulot. Mais il n'en reste pas moins qu'elle sente toute sa vie autour de lui. Et en cela, elle n'est pas méprisable, je trouve.
Oui, non, oui, t'as raison. Non, c'était vraiment les hommes autour. Enfin, plus, pardon, oui, c'était pas assez clair. C'est pas tous les seconds rôles, c'est vraiment bah, le groupe de Villepin, Juppé autour de Chirac. Ouais.
Oui, c'est vrai que globalement, tous les personnages masculins, c'est peut-être une force aussi de ce scénario. Ils sont tous nuls, hein, au fond. Et au moment où ils sont tous en train de boire de la Corona, en train de prendre des décisions pour la France, oui. Je trouvais que ça a été vraiment ce club, boys club, quoi, qui essayait de faire des décisions compliquées et importantes. Enfin, bon, c'est vrai. Mais par contre, je sais pas si c'est peut-être je fais un procès injuste à ce film, mais moi c'était sur la personnalité de Catherine Deneuve. Ce film a beaucoup d'écho avec la réalité, surtout avec le personnage de Nicolas Sarkozy qui revient, enfin qui est très insistant, qui frappe à toutes les portes, qui essaye de se faire, qui ressemble vraiment au Nicolas Sarkozy d'aujourd'hui, enfin qu'on connaît avec les procès. Mais d'ailleurs sur le personnage de Catherine Deneuve, moi en fait ce qui m'a vraiment dérangé aussi quand elle pardonne tout à son mari et qu'on la remercie d'être Vieille France. Moi c'est, je sais pas si vous vous souvenez pendant au moment là. Avec MeToo et Balance ton porc avait éclaté, Catherine Deneuve avait quand même affirmé que les hommes avaient des besoins et que ça pouvait arriver et que ces femmes devraient arrêter de se plaindre. Donc il y a eu des confusions entre la réalité et la fiction à certains moments dans le film qui m'ont fait en sortir. Et donc par exemple remercier pour Vieille France avec le personnage de Catherine Deneuve, je sais pas si je vais trop loin, mais à vrai dire j'étais un peu perplexe, hein, parce qu'elle pardonne quand même des infidélités, le fait de se faire mansplainer, le fait de ne jamais être écoutée.
C'est peut-être un gros procès d'intention. Là,
mais c'est peut-être un gros procès d'intention. Oui, j'avoue. C'est peut-être un gros procès d'intention. J'en ai peut-être plus sous la dent que juste le film, mais voilà, je voulais juste laisser ça dans le débat.
Tu projettes des trucs. Non,
mais bon, je sais pas, c'est intéressant de faire l'historique en dehors du film, parce que c'est un film qui veut prendre des libertés avec la réalité, mais qui s'en appuie énormément. Et donc.
Oui, mais pour moi, après, ça revient aussi au contrat entre l'acteur et le réalisateur, l'équipe du film et le public. On va voir un film, on va voir Catherine Deneuve parce que c'est une icône, parce qu'on sait qu'elle va être super bien habillée, parce que ça fait plaisir et tout ça. Mais après. Je pense que associer le personnage de Bernadette au personnage de Deneuve dans son engagement assez, un peu rétrograde carrément, ça m'est pas venu à l'idée du tout. Je pense que c'est une posture de spectateur qui est différente.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, sur ce point-là, ça m'a fait un peu penser à La Conquête de je sais plus trop qui, mais avec qui racontait l'ascension au pouvoir de Sarkozy, et c'était avec Podalydès dans le rôle de Sarkozy. Et c'est vrai que pour le coup, il n'y avait pas du tout cette question-là, parce que à côté de ça, dans la com et tout, Podalydès avait toujours affiché la distance par rapport au personnage. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu injuste, là, de reprocher ça au film. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi, après là, c'est très subjectif, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il me semble que dans La Conquête, dans la distance par rapport à son personnage principal et à toute cette classe politique-là... il y avait une distance qui était plus ironique et plus claire, et du coup peut-être que ça évitait un peu plus cette confusion, quoi.
Ouais. Parce que à la fin sur Bernadette qui essaye d'éviter le fisc, moi je trouve que c'est assez troublant, surtout quand on a Sarkozy et les affaires actuelles.
Oui, mais voilà, mais justement c'est rigolo, quoi, parce que avec la, justement si tu prends un décalage, je veux dire, faut vraiment pas le prendre comme tel. Je veux dire, le film n'a pas été réalisé avec l'aval des Chirac. Claude Chirac s'est empressé de le dire dès que le projet a été annoncé. Je pense qu'effectivement, alors bien sûr, l'accent n'est pas énormément mis. Enfin, il y a le manque de nuance. Enfin, il y a un manque de nuance sur les affaires, etc., ou sur le fait que Bernard Niquet est mis préfet alors qu'il l'a raté quand même trois fois l'ENA. Mais c'est pas non plus gravissime à mon sens, parce que la réalisatrice, je pense qu'elle compte justement sur aussi le regard du spectateur, sur sa connaissance de l'actualité immédiate, pour s'en amuser un petit peu, et puis à nouveau, je veux dire, s'en amuser pendant 1h30 au cinéma, quoi. Elle incite pas non plus à une posture absolument je m'en foutisse devant l'actualité, et au contraire invite à aller prendre le temps de se poser, de rire un peu, et puis
Non, mais oui, moi je suis d'accord avec Louis, et puis même ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect très, très léger, très de l'ordre du conte avec le cœur, etc. Même le fait qu'à un moment, il y a une sorte de garden party qui a vraiment eu lieu, mais là, elle est présentée comme un peu une sorte de fête à la maison, un truc très, très léger. Je pense que le fait qu'on nous montre des scènes comme ça, ça montre qu'il n'y a pas de complaisance dans le fait de nous dépeindre Catherine Deneuve et ses problèmes avec le fisc. Il n'y a pas de complaisance. Ça montre qu'elle prend tout comme une sorte de jeu. La garden party, c'est un jeu. Le fisc, c'est un jeu. Nommer quelqu'un préfet, c'est un jeu. Et c'est très ludique aussi en tant que spectateur, je trouve.
Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de complaisance, parce que quand même, c'est montré comme un énième coup, c'est-à-dire, regardez, elle est dans cette position-là, et regardez, elle sort sa baguette magique, elle arrive à s'en sortir. Et en fait, c'est après avoir eu tout... Enfin, ce film, je pense que si cette action-là arrivait en début du film, je pense qu'elle poserait beaucoup plus de problèmes, c'est-à-dire qu'elle essaye
justement,
de...
Justement, elle n'est pas au début.
Mais oui, mais elle échappe... oui, justement, elle n'est pas au début, parce qu'en fait, elle échappe au fisc après avoir... après s'être libérée, en quelque sorte, de son mari. Et en fait, c'est montré comme un énième acte de libération de son mari, mais c'est aussi un énième acte de libération des lois. Enfin, moi, je pense que le film, peut-être, ça ne m'aurait pas posé problème si il avait vraiment pris ses distances avec la réalité. Parce que là, il est dans une position d'entre-deux. On nous dit que c'est de la fiction, mais en même temps, on nous fait une reconstitution réaliste. On nous dit que tout n'est pas vrai, mais on s'efforce quand même à faire ressortir des archives, à nous rappeler aussi la passion de Jacques Chirac pour la poterie et les arts primitifs qui a donné le musée Quai Branly. Enfin, plein de petits clins d'œil à chaque fois pour... plein de petits clins d'œil nostalgiques sur les rosiers, sur le petit portrait de Chirac qui est au fond, présidentiel, bref. Enfin, ce film a à la fois un pied dans la réalité et un pied dans la non-fiction et n'arrive jamais à choisir, n'arrive jamais à trancher. Moi, j'aurais bien voulu un délire complet sur la vie de Bernadette qu'il aurait fait en icône féministe pop, qui vraiment peut-être serait allé encore plus loin que ça et qui aurait peut-être été une figure de proue du renouveau du mouvement féministe dans le film. Peut-être ça aurait été bien plus intéressant, ou alors un film complètement historique sur la vie de Bernadette. Normalement, il faut choisir.
Moi, je suis grave d'accord sur cet entre-deux-là. Ouais, je suis complètement d'accord sur ça.
Bon, bah, ce sera le mot de la fin sur Bernadette. On ne se sera pas réconcilié. Et donc,
coup dur.
Exactement.
Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis venu ici pour cliver, en fait.
Il y a vraiment deux teams.
Exactement. Je ne dirais pas qui a raison, mais c'est moi qui fais le montage. Passons maintenant au deuxième film de la soirée, dans un genre bien différent, avec Le règne animal de Thomas Caillet, film français de 2h08, sans Catherine Deneuve, mais avec des tortues quand même. Enfin, on ne les voit pas, mais on les suppose. Le règne animal prend place dans une France contemporaine de la nôtre, un futur très très proche en tout cas, où certains humains se retrouvent affectés par une mutation qu'on ne comprend encore pas tout à fait, convient la docteure au début du film, qui les conduit à se métamorphoser en animaux. Une fois ce postulat accepté, on se retrouve dans un film à la croisée de BoJack Horseman et de Camping, pour le cadre uniquement puisque c'est dans la forêt des Landes où ont déménagé François, c'est Romain Duris qui est absolument époustouflant, et son fils Émile, c'est le jeune Paul Kircher, et j'espère qu'on pourra revenir sur sa performance, tous deux quittent donc la région parisienne pour suivre Lana, l'épouse de François, la mère d'Émile, atteinte par cette mutation, et qui est transférée dans un centre dans le sud-ouest, donc, qui vient d'ouvrir pour accueillir ces créatures. Mais le camion qui était censé assurer ce transfert a un accident, et bon nombre de ces créatures se retrouvent dans les bois, dont Lana, qu'Émile et Français, François pardon, vont donc rechercher, à mesure qu'Émile change peu à peu lui-même. Le tout dans une ambiance tendue par la présence de la gendarmerie, avec Adèle Exarchopoulos en tête, puis aussi et surtout par celle de l'armée de terre, qui est finalement une ombre plus menaçante que les créatures elles-mêmes. Le film enfin est scandé par cette phrase de René Char, qui lui donne d'ailleurs tout son sens, « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Bon, il y a un gros budget pour un film de genre français, et pour moi c'est vraiment un très beau succès, et très français, comme Hubert Bonisseur de la Batte, et je ne souscris vraiment pas du tout à ce que du coup je peux lire sur Sens Critique, typiquement, ou ailleurs, comme quoi il faudrait espérer que M. Night Shyamalan en fasse un bon film, ou que... Et je cite, « Si ça marche, d'ici 2 ou 3 ans, Hollywood en tire un blockbuster très sympa. Ouais. » Bref, avez-vous marché, Nathan?
Moi, je vais un poil casser l'ambiance, mais je sais pas encore très bien comment me positionner sur ce film. Je trouve qu'il y a effectivement le postulat est vraiment hyper audacieux. Enfin, c'est un film qui est plein d'ambition et ça se voit dans les effets spéciaux, enfin tout. Mais je trouve que voilà, ça reste quand même un peu un pétard mouillé. Je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup au début de très bonnes idées de mise en scène, mais qui se perdent un peu au fil du film. Je suis pas forcément... Enfin, alors déjà, je suis content que tu soulignes la performance de Romain Duris, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu une unpopular opinion d'aimer Romain Duris. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup cet acteur. Je suis un peu moins convaincu par Paul Kircher, en tout cas pas toujours. Donc voilà, je sais pas encore très bien comment me positionner sur ce film, si je le trouve bien, mais qui aurait pu être mieux, ou si je le trouve carrément décevant, je sais pas encore très bien.
Alors moi, je trouve que c'est au contraire une très bonne nouvelle pour le cinéma français de manière générale. Je trouve que Thomas Cahier continue sur la lancée sur laquelle il était ces derniers temps, avec Les Combattants, où il a propulsé aussi, enfin, Adèle Haenel, Ad Vitam, sa série sur Arte avec Garance Marillier sur le transhumanisme. Je ne peux que vous recommander d'aller la voir. Et là, cette fois-ci, Paul Kircher, qu'on avait vraiment découvert avec... Christophe Honoré dans Le Lycéen, qui avait d'ailleurs gagné plusieurs prix d'interprétation, qui est tout simplement fabuleux, comme Romain Duris. Moi, je suis d'accord, en ce moment il y a une forme d'unpopular opinion d'aimer Romain Duris, je ne comprends pas bien, mais c'est un film, je trouve, qui d'un côté se donne vraiment les moyens, il lui a un énorme budget, mais au niveau des effets spéciaux, je trouve qu'il y a vraiment une recherche formelle et esthétique. Tout simplement, juste au moment où on construise des ailes, les séances de volée, il y a des changements de point de vue. Je trouve que c'est réalisé d'une manière extrêmement fine, mais que ce n'est pas seulement un film qui veut montrer qu'il a du budget ou juste montrer qu'il sait faire des effets spéciaux, mais je trouve qu'il est très bien écrit et très sensible, parce que c'est un véritable film sur l'adolescence, pour moi. Je trouve que même parfois, on pourrait peut-être le qualifier de teenage movie. Mais teenage movie à la française, et en même temps qui essaye d'être un blockbuster, car la relation entre le père et le fils est souvent touchante et n'est jamais totalement parfaite. Il y a toujours plein d'imperfections. Le père essaye toujours d'être là sans... d'être là, même si parfois sa présence est un peu encombrante, mais il n'y a pas tout l'aspect pathos qu'on pourrait avoir de la recherche de la mère qui a disparu, on s'est dit dès le début, elle s'est transformée, on ne la verra pas, on la voit presque pas dans le film, enfin peut-être elle réapparaît à d'autres moments, je ne sais pas, je ne spoil pas, on ne sait pas, mais voilà, moi je trouve que, et c'est quelque chose qui est intéressant sur certaines traditions et certaines pratiques, parce que le film se passe dans les Landes, mais ce n'est pas seulement un cadre carte postale. Il y a vraiment dans une scène qui est magistrale, qui réutilise les échasses landaises dans les marécages d'une façon incroyable. Et je trouve que c'est un film qui ne devrait pas être refait en blockbuster américain, parce que sinon il en perdrait toute la saveur.
Je suis bien d'accord. Si je peux revenir aussi sur un point, sur le fait que ça ne cède pas à la carte postalisation justement des Landes, par exemple. Enfin, parce que, comment dire, le réalisateur, donc Thomas Cahier, est landais hein, à l'origine, mais là il parvient, bon alors je dis ça, je n'y suis jamais allé moi-même, hein, mais je veux dire, à nous les rendre complètement étrangères, c'est-à-dire que la diégèse pourrait nous dire qu'on est en Amazonie par exemple, ce ne serait pas du tout surprenant, parce que voilà, le lieu est un camping, hein, qui ressemble d'ailleurs au camping du Way, hein, donc avis au BDE, le Way Animal y est tout trouvé pour le sujet de l'année prochaine.
Le Way Animal.
Bref, donc c'est la forêt des pins des Landes, mais ça pourrait effectivement être l'Amazonie, c'est un hymne absolu à cette nature qui est celle que connaît le réalisateur. Et le jeu sur les lumières est assez fabuleux, je trouve. Moi, ça donne à cette forêt une dimension très 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 belle. Et en même temps, ça permet aussi de mettre quand même un coup de projecteur sur les incendies qui ont attaqué les Landes à l'été dernier et qui ont failli mettre vraiment fin au tournage du film. On a quelques plans avec des troncs brûlés au premier plan, etc., qui rappellent cet arrière-plan là, mais ça reste un arrière-plan, c'est jamais fait avec didactisme, et c'est quelque chose que d'une façon générale j'apprécie dans ce film, et que c'est-à-dire que le message, on pourrait le résumer à c'est aimez-vous les uns les autres, faut aimer l'altérité, etc., etc., mais ça y va tellement pas du tout avec des gros sabots, si je puis dire, que c'est très très c'est jamais, il y a jamais de ridicule en fait dans ces traitements de des problèmes très très divers que sont l'exclusion, le traitement de la différence, etc.
Moi je suis pas complètement d'accord sur ça. Enfin je trouve qu'il y a quand même quelques moments où le film est un peu sur le fil du ridicule justement. Oui. Je pense que c'est très subjectif. Enfin, je sais pas si c'est si subjectif que ça d'ailleurs, parce que moi j'étais à une séance où il y a eu plusieurs scènes où les gens dans la salle riaient des rires nerveux ou gênés devant certains moments. Je sais pas quand. Même des plans tout bêtes, mais où Paul Kircher se regarde les mains en mode Tobey Maguire dans Spider-Man. Je sais pas, je trouve ça parfois un poil grotesque, mais je sais pas trop où est le problème parce que. Il y a énormément de points communs quand même avec les combattants, dans les thématiques, dans les personnages un peu décalés, etc. Certains dialogues très absurdes. Mais je trouve que là où dans les combattants, ça marchait hyper bien et ça prenait complètement, là, je trouve pas toujours ça très crédible.
Je peux juste rappeler de quel était le sujet des combattants.
Les combattants, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il y avait ce même contexte un peu post-apocalyptique. Il y avait le duo donc qui était campé par Adèle Haenel et Kevin Azaïs et qui était aussi un peu comme ici Romain Duris et Paul Kircher, deux contre le reste du monde. Enfin, il y avait pas mal. Oui, et puis aussi ce côté un peu Adèle Haenel qui était qui jouait un personnage complètement absurde, vraiment un ovni et donc ouais, il y a pas mal de thèmes qui reviennent et je trouve que ça marche moins bien ici. Et pour ce qui est aussi du message du film, j'arrive pas trop à savoir s'il y a, si le film est une parabole de quelque chose. Si oui, je sais pas trop de quoi, mais s'il prône l'appel à la tolérance de la différence ou des cas de Covid-19, je sais pas trop. Mais je trouve que de ce point de vue-là, les dialogues font pas toujours dans la subtilité. Enfin, il y a quand même des répliques. Genre j'aime bien les animaux mais de loin ou alors un dialogue entre deux policiers où il y en a un qui dit une bestiole enfin une créature et l'autre le coupe en disant non une victime. Je trouve que c'est quand même, enfin c'est vraiment des détails, mais il y a plein de moments comme ça où j'ai trouvé que le film perdait un peu sa crédibilité dans son écriture quoi.
Moi je pense qu'il cherche même pas à faire une parabole de situation situation réelle ni rien avec le Covid-19. Enfin, j'avais pas pensé. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais je trouve que ouais, il casse par exemple la structure de la famille, le rapport avec les hommes et les animaux. Franchement, sont franchement remis en question. Et il y a plusieurs positions. C'est vrai, il y a plusieurs positions face à l'étrange. Ceux qui acceptent, ceux qui font comme si de rien n'était, ceux qui refusent. Évidemment, c'est vrai qu'on pourrait voir peut-être une parabole, quelque chose. En rapport avec le monde, mais je trouvais que c'était dans l'écriture des personnages quelque chose qui pouvait peut-être aussi parfois se ressentir. Moi, je trouvais que, par exemple, il y avait certains personnages qui, de prime abord, dès leur première réplique, pouvaient paraître extrêmement clichés. C'est-à-dire le gérant du camping qui évidemment est un peu raciste, un peu anti-animaux, qui a des blagues lourdes et tout, mais finalement qui, comme le parti pris est extrêmement tenu, moi je trouve que c'est un film qui tient ses partis pris aussi. Par exemple, pareil pour les collégiens, parfois ils font des blagues un peu lourdes, on a l'impression, on va avoir une énième parodie de collégiens un peu débiles qui font des blagues débiles, mais comme en fait il part de là, je trouve qu'il casse cet aspect qui pourrait être extrêmement cliché et qui garde les personnages tout au long et que c'est pas juste des caméos juste pour nous faire rire 5 secondes, mais c'est des personnages qui ont une vraie trajectoire et une vraie histoire dans ce film. Je trouve qu'il coupe l'herbe sous le pied à tous ceux qui voudraient dire que ce film est cliché et donne vraiment une raison d'exister à ces personnages là qui, enfin pour le coup moi je viens du coin des Landes, genre font très couleur locale pour le coup, et c'est peut-être ça aussi qui empêche de faire la carte postale, parce que aussi la scène dans le supermarché se passe dans un super rue, se passe vraiment dans des endroits où on a l'habitude, qu'on peut avoir l'habitude de fréquenter quand on est dans ces endroits là
oui, tout à fait. Moi ce sur quoi je voulais aussi revenir par rapport à ce que tu as pu dire là et puis même tout à l'heure, c'est que c'est la façon dont la jeunesse est filmée, parce que tu parlais de teenage movie un peu à la française. En effet, je suis tout à fait d'accord, parce que je trouve que la jeunesse n'est pas vraiment filmée de façon grotesque ici. C'est assez juste, parce que c'est toujours enfin je veux dire, c'est bah, généralement les gens qui ont notre âge, quand c'est au cinéma, c'est toujours un moment un peu douloureux à regarder parce que c'est jamais très 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 très, très exact. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même assez juste d'une façon générale. Mais c'est aussi mené par donc cet acteur Paul Kircher là, que moi je découvrais complètement. De même, je découvrais aussi l'univers de Thomas Caillet. Mais j'ai été vraiment impressionné. Il a vraiment une gueule, comme on dit, d'un acteur. Il a une diction qui est un peu celle d'Homer Simpson par moment, mais je trouvais ça assez rigolo. Et il est quand même vraiment super bon acteur. Moi, je veux dire, tu souffres vraiment avec lui quand il est en douleur. Enfin, en tout cas, c'est ouais. Et en même temps, les moments d'humanité là, il y en a plusieurs, notamment dans la voiture avec son père là, où ils rient ensemble, où ils crient ensemble et tout, sont hyper touchants. Enfin voilà, c'est vraiment assez beau. Et le réalisateur semble quand même placer un espoir dans la jeunesse ou dans l'enfance avec le personnage de la petite grenouille, qui moi m'a vraiment ému.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des scènes qui pour le coup marchent au contraire super bien, quoi. Je trouve que la scène du supermarché est super. Celle où ils sont effectivement dans la voiture de nuit et où on a Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet en fond sonore. Enfin, il y a plein de moments comme ça où c'est assez. Où c'est pour le coup assez beau et où vraiment j'étais complètement rentré dans le film. C'est un autre point, mais moi j'avais aussi un peu une frustration, c'est que je trouve qu'au début, vraiment les 10-15 premières minutes, il y a plein d'idées de mise en scène, ne serait-ce que dans la scène d'introduction dans la voiture, je crois que c'est même genre le premier plan où il y a un jeu avec une alternance de gros plans et de hors-champ où Paul Kircher et son chien se mêlent un peu, et où du coup ça préfigure un peu le reste du film avec les mutants, etc. Où là, pour le coup, je trouve ça très, très réussi et qu'on retrouve un peu avec le plan final où pareil, il y a, je spoil pas, mais un travelling où on sait plus trop si c'est la végétation ou un peu lâche, il y a des trucs très beaux, mais je trouve que au milieu du film, les très bonnes idées de mise en scène du début se perdent un peu, par exemple dans la manière de filmer les mutants. Je trouve qu'au début il y a une certaine pudeur, enfin je sais pas si pudeur est le mot, mais ils sont toujours filmés derrière une vitre ou en hors champ, etc. Il y a un gros travail sur le son qui est hyper réussi, les mouvements de caméra retranscrivent vraiment une certaine organicité voire animalité, et puis après ils sont filmés d'une manière beaucoup plus rentre dedans, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais c'est l'idée, quoi, vraiment des gros plans beaucoup plus classiques, et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage que ces bonnes idées de mise en scène là se perdent un peu au milieu du film au profit d'autres choses qui marchent aussi, mais voilà, c'est un peu une frustration de mon côté, ça.
Moi, je ne trouve pas qu'elles se perdent, moi je trouve qu'elles évoluent. Par exemple, l'aspect d'être derrière une vitre, après il y a l'aspect vraiment dans la forêt, où là c'est extrêmement organique, et au moment de filmer les mutants, on comprend vraiment la transformation, et on cherche vraiment à être du côté des personnages et de comprendre la mutation. D'ailleurs, le mutant principal joué par Tom Mercier, moi j'étais super content de voir cet acteur dans ce film, parce que bon, il était révélé entre guillemets dans Synonyme de Nadav Lapid, où c'est incroyable. Enfin, d'ailleurs, c'est un film que je pense est très d'actualité. Enfin, bon, là je m'éloigne. je m'éloigne complètement, mais c'est vraiment de filmer une transformation, la transformation d'un corps humain vers une autre forme animale. Et tu as employé le mot d'organicité. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est un film qui cherche à faire des effets spéciaux, mais sans en enlever l'organicité.
Oui,
et d'ailleurs le plan sur les mains Spider-Man avec Spider-Man un peu gore est extrêmement organique et rappelle en fait les premiers Spider-Man qui étaient vraiment sur l'aspect vraiment de la toile qui sortait vraiment du corps, contrairement aux derniers Spider-Man qui sont vraiment plutôt des gadgets techniques qui ressemblent plutôt à Batman pour le coup. et donc moi j'étais content de voir ce retour de l'organique et du végétal, et aussi voir comment pouvaient coexister parfois certaines formes de prothèses. Comment est-ce qu'on apprenait à utiliser son corps à nouveau ? Et c'est pour ça que ces mutants-là, en fait, où ils cherchent à apprendre à utiliser un nouveau corps, m'a vraiment fait penser à cette dimension de teenage movie, avec des adolescents qui ont leur corps qui change et qui ne savent pas exactement, qui découvrent en quelque sorte une nouvelle fonctionnalité de leur corps. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un film extrêmement touchant sur la croissance, enfin pas sur la croissance, mais sur le vieillissement.
Ouais. Enfin. C'est vrai que ouais, toute la relation, enfin toute la storyline autour du personnage de Fix et de qui est donc ouais le mutant principal et Paul Kircher, ça que je trouve c'est vraiment une grande réussite du film, dès la première scène de leur prise de contact, qui est quasiment un remake plan pour plan de Dragon, le dessin animé. Il y a vraiment un truc, c'est quasiment la même chose.
Oui.
Mais c'est vrai que cette relation-là est très belle, et les scènes de où effectivement il prend son envol et tout sont pour le coup vraiment très très bien mis en scène. Et c'est les moments où moi j'ai été le plus époustouflé par le film, parce qu'il faut quand même dire, là je passe un peu pour un hater du film, mais j'ai quand même globalement bien aimé et passé un bon moment malgré cette frustration-là. Et effectivement, ouais, il y a énormément de moments où on est complètement emporté. Et je rejoins complètement ce que vous dites sur le fait qu'il faut absolument pas qu'un blockbuster soit fait à partir de ça, parce que c'est pas du tout l'idée, et que ça perdrait complètement ce traitement-là des effets spéciaux, cette organicité-là, qui malgré tout reste un gros gros point fort du film. Ouais.
Et puis, pour revenir à ce que tu disais sur les idées de mise en scène, etc., je trouve qu'au contraire, vraiment, c'est assez appréciable. En tout cas, ça reste une constante sur tout le film, et des idées de cinéma qui, effectivement, sont folles. Tu as rappelé le gars sur ses échasses, Thomas, oui. au début de cette chronique-là. Effectivement, c'est vraiment très, très... c'est vraiment très, très fort. Ça ancre le film, effectivement, dans ce territoire-là, avec la fête de la Saint-Jean, et le gars sur ses échasses, qui finalement d'ailleurs vient lui-même, enfin la poursuite donc dans ces champs extrêmement hauts, avec ce berger qui devient lui-même assez monstrueux, et devient lui-même une espèce de mutation. D'ailleurs, à un moment, il y a quelqu'un qui rentre de la fête sur des échasses, et qui est observé rapidement par une créature. D'ailleurs, c'est pas exactement ce que c'est, un insecte, c'est une espèce de phasme, exactement ce que j'ai noté, avec de très longues pattes qui, voilà, peuvent faire écho à ces échasses-là. Et d'une façon générale, effectivement, le film induit beaucoup de questionnements, voilà, sur cette altérité-là, sur les jeux de regard aussi, surtout, beaucoup de plans juste rapprochés sur les yeux, pour mettre l'humanité en question, qui regarde quoi, des jeux, plus ou moins fins sur les doubles sens, voilà, mais la gendarme qui va demander sa mutation... Le gars qui
n'a pas pensé. Ouais. ça mute en plus.
Exactement. ou même Romain Duris, d'ailleurs, qui a un aspect assez bestial, alors qu'il n'est pas atteint du tout par tout ça. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est effectivement, il y a une inventivité visuelle qui est assez folle. J'en viens à imaginer toutes les créatures qu'on voudrait voir et qu'on n'a pas vues, les trucs. Vraiment, qui sont aussi pas réalisables, hein, mais les baleines, les araignées.
J'ai pensé à la même chose.
Il y a ce truc vraiment atroce qui semble être un monstre, d'ailleurs un morse à un moment là. Mais d'une façon générale, le côté zoopoétique rappelle vraiment aussi des films comme Max et les Maxi-Monstres, etc. Oui. Enfin, c'est assez particulier, et c'est vraiment. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis sorti, j'avais vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'avais jamais vu
jusqu'à présent.
Oui, totalement. Mais d'ailleurs, en plus, sur l'altérité, je trouve que ce film a un propos qui est très fin dessus, parce qu'il n'invite pas seulement à accepter l'altérité comme un état de fait, pas seulement l'autre comme un autre, mais vraiment apprendre à vivre avec l'altérité et découvrir l'altérité de l'autre ensemble. Enfin, je trouvais que c'était pas seulement on nous servait quelque chose, acceptez-vous, il faut vivre ensemble, je ne sais pas quoi, c'est apprenons à vivre ensemble. Regardons-nous grandir, regardons-nous voir. Voilà, c'était grandir, le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est une extrêmement bonne nouvelle pour le cinéma et le cinéma français, parce que je trouve qu'on a Bernadette d'un côté et le règne animal de l'autre, car Bernadette...
Et les deux vont très bien.
Les deux vont très bien, mais moi je trouve que d'un côté, Bernadette est le réac, et Bernadette est peut-être le film réac qui est dans la lignée de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et là... Et là, peut-être
pas
vraiment, enfin,
tout.
Un film qui va nous sortir de la comédie du dimanche soir sur France 2. Peut-être c'est un film qui va enfin nous sortir de la comédie du dimanche soir sur France 2 ou sur TF1.
Toute comédie du dimanche soir sur France 2 ou sur TF1 n'est pas achetée. Hein. Je parlais de camping tout à l'heure, j'aime énormément camping.
Ah oui, non, mais camping, mais, c'est drôle, mais bon,
mais, mais non, mais bon. Enfin, d'une façon générale, c'est vrai que... D'une façon générale, c'est vrai que c'est un film que, globalement, j'ai très très peu à redire, en tout cas, et c'était très agréable de voir un film à ce point réussi. La musique est très belle, je trouve, vraiment.
Ah oui, c'est vrai. Ça, je voulais le dire, je l'ai noté, la musique est incroyable. Ouais. Ouais, complètement.
J'ai pas noté le nom du compositeur, je sais pas
moi
si
moi non plus.
Non,
Andrea Laszlo de Simone.
Et
qui a un immense EP. Moi, je recommande la musique Consigliè aussi.
Voilà. Non, c'est vraiment... une très très belle expérience. Donc allez-y, il a assez bien débuté au box-office. J'ai vu l'autre jour, au bout de la première semaine, c'était 170 000. 210 000 pour Bernadette, quoi, bref.
Merci Nathan.
Non, mais je pense que le bouche à oreille marchera assez bien. Vos critiques vous donneront leurs conseils et on commence avec Chirine.
Alors le conseil que je vais donner, c'est la série Parlement. Donc ça n'a rien à voir avec le Festival Lumière et l'actualité cinématographique de Lyon. Donc la série Parlement, dont la troisième saison est actuellement diffusée sur France TV. Donc c'est une série franco-belge qui a été imaginée par Noé Debré et qui raconte les coulisses du Parlement européen à Bruxelles sous un angle comique, un angle assez loufoque, un angle quasi féerique, comme dans Bernadette, à travers un jeune assistant parlementaire un peu naïf, Samy. Donc, en fait, c'est un traitement très comique d'une institution qui peut avoir une réputation assez austère, assez terne, et je trouve ça très réussi, très drôle. Il y a quelque chose de l'ordre du conte, du récit d'initiation qui me plaît beaucoup, et je suis tellement fan qu'un jour, j'ai vu le comédien à la gare de Turin, et je suis allée lui parler, en mode « Oh, j'adore Parlement !» C'est vraiment une très bonne série, je vous la conseille.
Et il t'a répondu quoi ?
Il était adorable. Okay. Il était super sympa.
Trop bien, merci Chirine. Le conseil de Nathan.
Oui, alors déjà, je corrobore parce que Parlement, j'aime beaucoup aussi. Et moi, mon conseil aujourd'hui, c'est un conseil un peu particulier. C'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt... je vous exhorte à faire quelque chose. En ce lendemain d'élimination de l'équipe de France par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, j'appelle à se désabonner pour tous ceux qui suivent leur compte Instagram de Sens Critique, qui a eu l'audace et le mauvais goût de conseiller aujourd'hui de bon matin par un post le film Invictus de Clint Eastwood qui raconte le premier sacre de l'équipe d'Afrique du Sud en 95. Et niveau timing, moi ça ne passe pas du tout. Donc mon conseil, ce n'est certainement pas de revoir ce film, en tout cas pas maintenant, mais plutôt d'appeler au boycott du compte Instagram de Sens Critique pour crime contre la patrie et atteinte à l'Union nationale. Voilà.
Très bien. L'émission sort mercredi, mais ce sera toujours d'actualité. Et enfin, le conseil de Thomas.
Moi, je vais peut-être être un peu plus consensuel et un peu moins original, parce que j'ai parlé du Festival Lumière qui se déroule actuellement à Lyon et qui donne le prix Lumière au grand maître allemand Wim Wenders, qui a tout de même plusieurs pieds dans plusieurs pays. Et je voudrais vous encourager à voir... à revoir évidemment Paris, Texas et Les Ailes du Désir, mais aussi ses documentaires, car il y a une sacrée sélection de documentaires qui va du Buena Vista Social Club qui se passe à Cuba, mais aussi Tokyo Ga qui peut-être explique sa dernière fiction présentée au Festival de Cannes sur les toilettes japonaises. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi un de ces documentaires qui va sortir ce mercredi en 3D sur le peintre et sculpteur Anselm Kiefer. Je pense que ça va être un sacré moment de cinéma. Donc n'hésitez pas à aller soit au Festival Lumière, soit en salle, soit dans la salle de cinéma classique telle qu'on la connaît. Mais d'ailleurs, je voudrais proposer un petit détour par Wim Wenders pour aussi recommander une autre section du Festival Lumière. Et c'est un cinéaste qui a énormément compté pour Wenders, car il le remercie à la fin des Ailes du Désir. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Il y en a trois, il y a trois prénoms. Il y a Andrei pour Tarkovsky, François pour Truffaut et Yasushiro pour Ozu, dont on peut revoir 6 films inédits de Ozu. Ça n'arrive pas souvent tellement il a été tellement étudié et tellement... repris, mais c'est une très belle surprise pendant ce festival où on peut redécouvrir 6 films qui parlent à la fois de l'enfance, de la famille, mais aussi qui fait un super portrait de la société japonaise d'avant et d'après-guerre. Enfin, je peux que vous recommander de vous y empresser. Mais à défaut, après les révélations de Mediapart sur Thierry Frémaux, au moins la programmation, elle est au rendez-vous.
Et merci Thomas. Et enfin, mon conseil à moi, c'est dans le cadre du Festival Lumière, toujours évidemment, les projections qu'il y aura de La Classe Américaine. Voilà, probablement l'un de mes films préférés, toutes catégories confondues, réalisé par Michel Hazanavicius et Dominique Meseret. Donc, George Abitbol, c'est John Wayne, est l'homme le plus classe du monde, et il est mort, et ses derniers mots sont « monde de merde ». Par un astucieux système de flashback, le spectateur suit l'enquête que mène Peter, c'est Dustin Hoffman, qui suit un régime à base de Wish Lorraine. Steven, c'est Robert Redford, journaliste total, digne héritier d'Albert Londres, et Dave, c'est Paul Newman qui n'a jamais pu encadrer Michel Legrand, pour comprendre comment Abitbol a pu en arriver là. Voilà, rebondissement incroyable au programme de ce film au casting 5 étoiles. Outre ceux que j'ai cités, on y retrouve Burt Lancaster, James Stewart, Frank Sinatra, Dean Martin, Robert Mitchum, un caméo d'Orson Welles, et j'en oublie encore. Voilà, ce chef-d'œuvre d'humour et d'hommage au cinéma hollywoodien. Ce seront 3 séances le week-end prochain, le vendredi 20 à 16h30 au Pâté Bellecour, au hangar de l'Institut le 21 à 20h45 et à l'UGC Confluence le dimanche 22 à 11h15. Notez bien enfin qu'à l'issue de la projection de samedi, Michel Hazanavicius dédicacera le script du film paru il y a 2 ans en classique Larousse. Voilà.
Waouh.
Et oui,
ouais, sympa.
Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Chirine, Nathan et Thomas, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude, directement disponible sur transistor.fr. On parlera de Killers of the Flower Moon. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor. Thank you.